en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le mercredi 31 janvier 2007 se déroulait sous la coupole de l'Institut de France la séance solennelle de réception de Charles Chêne à l'Académie des Beaux-Arts. Le compositeur Charles Chêne a été élu dans la section de composition musicale le 9 novembre 2005 au fauteuil précédemment occupé par Marius Constant. Les tâches administratives que Charles Chêne occupa au sein de Radio France ne l'ont pas empêché de composer. Plusieurs opéras jalonnent ainsi sa carrière. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette séance de réception que Pierre Schoendoerffer, président du bureau de l'Académie des Beaux-Arts pour 2007, a introduit. Vous entendrez Jean Prodromides, de la section musicale de l'Académie des Beaux-Arts, prononcer un discours de réception à l'encontre du nouvel académicien, puis Charles Chêne, en réponse, a prononcé le discours d'éloge de son prédécesseur Marius Constant. Retrouvons-les sous la coupole.
La séance est ouverte. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie de recevoir Charles Chêne, membre de la section de composition musicale, et c'est notre confrère Jean Prodromides qui va l'installer sous la coupole.
Mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le chancelier, monsieur le président, mes chers confrères, mesdames et messieurs, mon cher Charles. Il y a déjà plus de 30 ans que nous avons fait connaissance. C'était à Paris, dans le cadre de la Maison de la Radio, où vous exerciez alors d'importantes fonctions. Puis nous nous sommes fréquemment rencontrés. Et parfois, je vous revois sur la scène d'un théâtre lyrique qui venait de créer votre dernière œuvre, moi applaudissant dans le public, cependant que quelques mois après, c'était la situation inverse qui se produisait. Il m'est arrivé d'ailleurs de commencer les répétitions d'un opéra sur une scène où l'on achevait de démonter les décors de votre plus récent ouvrage, ou au contraire, dans un autre théâtre où je travaillais, de voir l'affiche de votre prochain spectacle. Eh bien, il faut dire que cela finissait par ressembler à une sorte de course-poursuite de l'amitié. Puis nous nous sommes revus dans le cadre de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, où vous m'aviez rejoint pour y défendre le droit d'auteur et plus encore le droit à l'existence d'œuvres contemporaines grâce au fonds de création lyrique. C'était un souci permanent pour nous deux. Et cette amitié, qui s'est scellée durablement au fil des ans, se marque aujourd'hui d'une nouvelle rencontre au sein de notre académie. Vous allez prendre place au 7e fauteuil de la section de composition musicale. C'est un siège de création récente, car vous n'aurez eu que deux prédécesseurs, Marius Constant, dont vous ferez tout à l'heure l'éloge, et Olivier Messiaen, dont l'œuvre a tant marqué la musique du XXe siècle. Notre compagnie, attentive à l'histoire du passé, se doit évidemment d'être à l'écoute de toutes les formes artistiques actuelles. Chacun de nous, engagé dans ses propres choix esthétiques, doit savoir aussi en faire abstraction lorsqu'il s'agit de prendre position ou de décerner les très nombreux prix qu'il nous est donné d'attribuer. C'est une situation d'arbitre difficile à exercer, car il faut tenter de distinguer les qualités professionnelles d'une œuvre au-delà même des options artistiques qu'elle comporte et des facilités passagères de la mode. Tout vous préparait à ce rôle d'expert vigilant. Vous avez été pendant 15 ans à la tête du service des commandes musicales de Radio France, et chacun s'est pu à reconnaître toute tendance confondue, il faut le dire, votre ouverture d'esprit et votre largeur de vue. Redoutable fonction, celle que vous avez eue à exercer à une époque fertile en opposition violente entre les différentes écoles. Vous avez su alors ne privilégier aucune tendance au détriment d'une autre. C'est dire qu'aujourd'hui, votre présence parmi nous témoigne aussi de cette impartialité de jugement qui vous caractérise. J'ajouterai que ces années passées à Radio France ont fait de vous un des meilleurs experts des œuvres musicales contemporaines, françaises et étrangères. Vous êtes né à Toulouse en 1925. 1925, c'est l'année de la création d'une des œuvres majeures du théâtre lyrique, Wozzeck d'Alban Berg. Avec beaucoup d'imagination, nous pourrions conjecturer qu'une heureuse constellation zodiacale traversant le ciel depuis Vienne et Berlin jusqu'à votre ville natale a dégagé quelque influence bénéfique sur vos premiers jours pour faire de vous plus tard un passionné d'opéra. De ceci nous parlerons plus tard. Considérant votre passé, on s'aperçoit que tout était déterminé pour faire de vous un musicien. D'ailleurs, n'avez-vous pas dit « Je ne sais pas comment a débuté ma vie musicale, car j'ai baigné dans la musique dès mes premières années. » Votre père était violoniste, votre mère pianiste et organiste, tous deux professeurs au Conservatoire de Toulouse. Et vous avez appris ces deux instruments avec eux, le violon dès l'âge de 5 ans, le piano un peu plus tard, car vous sentiez sans doute la nécessité d'un instrument polyphonique. Votre père, qui avait fondé le quatuor Irénée Chen, vous a initié à la musique de chambre avec les quatuors de Debussy et de Ravel. Très jeune, vous avez déchiffré ses œuvres et des partitions alors très nouvelles, comme le thème et variations pour violon et piano d'Olivier Messiaen. Votre père était aussi premier violon du théâtre du Capitole. Et très tôt, accompagné de votre mère, vous allez vous initier au répertoire lyrique, orienté alors à Toulouse sur Puccini et Massenet, plus rarement sur Wagner. Cette fréquentation assidue et ses découvertes, vous ne les oublierez jamais. Elle fera naître en vous ce goût de l'opéra qui s'exprimera plus tard. Après des années d'études à Toulouse, vous entrez au Conservatoire de Paris dans la classe de violon de Joseph Calvet et parallèlement, vous étudiez l'harmonie et la fugue avec les frères Galland. Plus tard, vous vous inscrirez à la classe de composition de Darius Milhaud. C'est au Conservatoire que vous rencontrerez une jeune pianiste avec qui vous formez un duo, c'est Odette Decaux qui deviendra votre femme. Je crois savoir d'ailleurs que le duo Chen-Decaux, même s'il ne se produit pas en public, n'a jamais cessé d'exister et de déchiffrer de nouvelles partitions. Mais il faut gagner votre vie. Et c'est ainsi qu'à 17 ans, vous devenez musicien d'orchestre à la Gaîté Lyrique. Expérience enrichissante pour qui sait en tirer parti malgré la routine. Vous allez profiter de ce travail d'instrumentiste pour écouter la sonorité de l'orchestre, le mélange des timbres, ce qui sonne bien ou non, tant et si bien que vous direz ne plus avoir eu besoin par la suite d'ouvrir un traité d'orchestration. Mais vous allez bientôt quitter les prestiges de la Gaîté Lyrique pour ceux nettement plus fascinants de la ville de Rome. Comme Berlioz, comme Debussy, vous obtenez à la troisième tentative le Grand Prix de Rome. On chuchote que vous auriez pu être couronné par l'Académie l'année précédente si certaines néfastes influences extra-musicales n'avaient joué en votre défaveur. Cela créa un incident qui eut cependant un effet bénéfique car Claude Delvincourt directeur écuré du conservatoire, en profita pour faire passer une réforme en augmentant le nombre de musiciens dans le jury du concours et en faisant accompagner les cantates des concurrents à l'orchestre et non plus au piano. Vous voilà à Rome. Rome, c'est pour vous maintenant la liberté d'écrire quand et comme vous voulez. Plus besoin alors de tirer l'archet dans un orchestre, si utile ait été pour vous cette expérience. Vous découvrez la ville éternelle et l'Italie. Vous y trouvez l'occasion d'enrichir votre culture vers de nouveaux horizons. Vous vous liez avec de nombreux compositeurs comme Goffredo Petrassi, dont le Coro di Morti vous bouleverse. J'oublie de dire que les magnificences romaines n'empêchent pas le duo Chaîne-Decco de continuer à fonctionner sous le ciel lumineux du Latium. Rentré à Paris, après l'aisance romaine, il vous faut trouver un travail rémunérateur. Mais ce sera pour vous non seulement une nécessité matérielle, mais aussi une obligation morale. Et là, je vous laisse la parole. Je crois qu'il est nécessaire pour un compositeur d'exercer un métier parallèle, dites-vous, et d'avoir une responsabilité sociale. Je n'ai jamais songé à vivre de ma seule musique. Je trouve bénéfique de pouvoir me frotter à d'autres choses que ma seule musique, et j'ai toujours essayé de faire en sorte de n'écrire que pour mon seul plaisir. C'est pourquoi, pendant très longtemps, je me présentais comme un compositeur amateur. Nous ne tarderons pas à voir ce que cette très surprenante déclaration pouvait avoir d'excessif. Après un passage au Club français du disque, vous prenez contact à la radio avec un ami du conservatoire, Marius Constant. Aujourd'hui, vous allez lui succéder et vous n'aurez donc pas eu le bonheur de le rencontrer à nouveau au sein de notre académie. Il était alors directeur de France Musique et il vous confie d'abord plusieurs programmes musicaux, puis, appelé à d'autres fonctions, il vous propose de le remplacer à la tête de cette station. À cette époque, les responsables de la radio française étaient des poètes et des compositeurs. Jean Tardieu, Paul Gilson, Marius Constant, Henri Dutilleux, Henri Barrault y avaient fondé une direction de la musique et s'étaient entourés de musiciens, qu'ils soient de sa génération ou plus jeunes. Il avait su créer une continuité naturelle entre le monde de la création et celui des orchestres et des chœurs de la radio. Pour les compositeurs, ce fut un âge d'or. Lorsque vous prenez la direction de France Musique, cette chaîne ne diffusait pratiquement que des disques. Vous allez faire évoluer ce programme et le rendre plus vivant en organisant des retransmissions de concerts symphoniques et de musique de chambre plusieurs fois par semaine, ce qui ne manquera pas de poser de considérables problèmes budgétaires. Votre obstination vous fera obtenir de nouveaux crédits pour ces manifestations où vous accueillerez Elisabeth Schwarzkopf, Martha Argerich et bien d'autres. Deux chiffres témoignent éloquemment de la réussite de votre action à la tête de France Musique. À votre arrivée, 300 000 auditeurs. À votre départ, 3 millions. Puis vous allez quitter cette chaîne pour prendre la direction du service des commandes de la radio. Cet organisme en fera le principal acteur de la vie musicale avec le ministère de la Culture, en commandant chaque année une quarantaine d'œuvres destinées aux ensembles de la radio ou à de prestigieux concours comme le Prix Italia, œuvres symphoniques, de musique de chambre et aussi opéra. Opéra, d'ailleurs souvent coproduit avec des théâtres lyriques, ces ouvrages étaient créés grâce à la commande initiale de Radio France. Vous me permettrez de dire qu'il est très regrettable que cette impulsion que vous avez donnée à l'opéra contemporain ait été abandonnée par vos successeurs. Avec ces charges si prenantes que vous avez remplies à Radio France, comment trouver le temps d'écrire de la musique? Eh bien, la liste de vos œuvres prouve que grâce à une organisation rigoureuse de votre temps, vous réservez régulièrement deux matinées et le week-end à la composition. Vous avez réussi à concilier ces deux activités. Le violoniste que vous êtes a toujours eu le goût de l'instrument soliste, ce qui vous amène à écrire plusieurs concertos. Concerto pour trompette, concerto pour orgue avec Marie-Claire Alain et pour violon avec pour interprète Davy Herlihy. Votre musique de chambre et vos œuvres symphoniques s'inspirent, elles, de l'atmosphère étrange de textes et de mythes d'autres cultures, européennes ou plus lointaines. Ce sera Tarquinia, hommage à la civilisation étrusque, puis Obinoa sur des poèmes japonais. Vous cherchez à retrouver le timbre et la couleur de sonorités exotiques avec la harpe celtique, la flûte et les percussions, et l'évocation du monde antique grec, poème de Sappho, commandé par Maddy Mesplé, rare exemple d'intimisme à cette époque ancienne et dont le lyrisme érotique vous passionne, puis les visages messéniens pour grand orchestre, Électre et Cassandre, deux destins qui préfigurent, on pourrait dire qui sont les prodromes, des personnages tragiques de vos opéras. Enfin, c'est le monde africain qui vous fascine et vous mettez en musique les textes de la négritude dans Pour un monde noir, dont Christiane Eda Pierre sera l'inoubliable interprète. Dans ce long poème, l'exploitation de timbres, de percussions et de cellules rythmiques des musiques africaines et antillaises témoigne de votre intérêt pour une conception renouvelée de la couleur orchestrale, la souplesse de la voix et de votre passion pour les cultures extra-européennes. C'est à la suite de ce succès, du succès de cette œuvre, que va se réveiller en vous un vieux rêve né dans votre adolescence, alors qu'avec vos parents, vous fréquentiez à Toulouse le théâtre du Capitole, l'opéra. J'ajouterai qu'Odette, votre épouse, chef de chant à l'opéra de Paris, a aussi contribué à développer chez vous ce désir latent. Alors, de 1983 à aujourd'hui, cinq opéras vont voir le jour, cinq opéras qui ont tous un point commun. Le rôle principal, prédominant, sera toujours féminin. C'est une constante dans vos ouvrages lyriques, car dans votre esprit, une voix de femme a une plus grande souplesse, permet plus de mélisme et vous semble proche de cet instrument qui vous est cher, le violon. Mais loin de la douceur dangereuse d'une Mélisande ou d'une Sigwinde, vous privilégiez des personnages féminins qui se caractérisent par la violence et la démesure de leur comportement, prises dans un fatum, un destin qu'elles n'arrivent pas à dénouer. Erzsébet, la sanguinaire, Jocaste, incestueuse et suicidée, et la fiancée rebelle des noces sanglantes. Faut-il voir dans cette recherche une compensation à la monotonie de votre travail administratif quotidien? Non, je ne le pense pas. Sans aller trop loin dans l'exploration psychologique, je dirais plutôt, et je vous connais, que sous votre aspect calme et pondéré, sommeille en vous une violence, une passion qui, parce que contenue, éclate et s'investit dans vos opéras. D'ailleurs, n'avez-vous pas avoué un jour, dans une interview, que votre tempérament vous porte naturellement vers un climat anxieux? Vous souhaitiez depuis longtemps trouver un ouvrage qui mette en scène une femme seule et l'interprète idéale, vous l'avez trouvé, ou plutôt retrouvé, en la personne de Christiane Héda Pierre, qui fut aussi votre inspiratrice pour cet opéra. Erzsébet, créé en 1983 à l'Opéra de Paris, qui l'avait commandé. Erzsébet, comtesse hongroise, sorte de barbe bleue au féminin, torture et fait assassiner près de 600 jeunes paysannes dans les souterrains de son château, tentant ainsi de retrouver dans ce bain de jouvence sanglant sa beauté et sa jeunesse perdue. L'action se situe dans la chambre de son château, où Erzsébet, condamnée à y être emmurée, va passer ses trois dernières années. Elle revivra son passé et les accusations du pasteur sur sa perversité et sur les forces maléfiques qui se sont déchaînées en elle. Le monologue se terminera par l'attente anxieuse et lucide de cette femme à la recherche du pourquoi et de l'explication profonde et cachée de ses actes. Pour ce rôle et pour votre interprète, vous utilisez les différentes techniques vocales du parler, du Sprechgesang et du chant, chacune en rapport avec des mouvements, des moments spécifiques. Violence et cruauté également, mais collective cette fois, dans Noces de sang. Opéra, d'après l'œuvre éponyme de Federico Garcia Lorca, dont vous avez tiré vous-même le livret. L'ouvrage met en scène deux femmes intraitables, la fiancée qui obéit à l'amour et la mère qui n'entend que les lois d'airain du clan. La jeune fille prendra la fuite avec son amant, défiant la famille réunie lors de la fête du mariage avec un autre qui lui a été imposé. Il se dégage de cette scène une symbolique de la liberté opposée à la tradition dans un climat passionné qui ira jusqu'au meurtre. Puis, quelques années plus tard, vous allez demander à Jacques Lacarrière, grand spécialiste du théâtre antique grec, d'écrire le livret de votre troisième opéra, Jocaste. On parle beaucoup du complexe d'Œdipe, dites-vous, mais qui met en scène, qui s'intéresse à Jocaste? Elle sera le pivot de l'œuvre qui fait vivre la tragédie grecque sous l'angle féminin, celui de femme victime de lois ancestrales et de la folie humaine. L'ouvrage, écrit pour sept solistes, chœur de femmes et orchestre, s'ouvre au moment où Œdipe vient de se crever les yeux, mais on ne le verra cependant qu'à la toute fin, lorsqu'il part avec Antigone vers un autre destin. Cécilia, votre quatrième opéra, sur un livret d'Eduardo Manet, se situe dans la continuité de vos précédents ouvrages. Il met en scène l'amour passionné d'une jeune mulâtresse et du fils d'un colon cubain, amour interdit par les conventions sociales et la loi espagnole. Ce thème renouvelé de Roméo et Juliette, mais au soleil des Caraïbes, se complique de relations familiales secrètes, cachées, qui font de la jeune mulâtresse la demi-sœur du fils du colon. Devant ce double tabou, celui des races et aussi celui de l'inceste, la jeune fille en perdra la raison. De votre tout récent cinquième opéra, je ne pourrai parler, car nous ne l'avons pas encore vu. se déroulera-t-il dans le climat de tension et de violence de vos précédents ouvrages? C'est ce que nous saurons, comme on dit, en assistant dans les prochains mois à sa création. Je sais combien il est périlleux à notre époque de tenter d'analyser non la technique, ce n'est pas le lieu ici, mais le style et le langage musical d'une œuvre. Et je vous confie mon embarras, car je risquerais d'être approximatif et peut-être même inexact. Et je trouve plus sûr de vous laisser la parole. Dans l'univers sonore des acquis de notre temps, les agrégations sonores se déploient dans un monde chromatique n'excluant aucune chaleur harmonique. La continuité de l'écriture utilise aussi des formules semi-aléatoires permettant une grande souplesse ainsi qu'un climat fluctuant et mystérieux. Ma musique ne naît pas d'une pure spéculation sur des techniques d'écriture, elle vient du timbre et de la couleur instrumentale. En essayant aujourd'hui de suivre l'évolution de votre parcours, en évoquant vos différentes œuvres et en tentant de saisir vos engagements artistiques, j'espère ne pas avoir été trop infidèle à la définition si précise que vous avez donnée de votre musique et de son style. En terminant, je voudrais associer à l'image qui vous est rendue aujourd'hui votre épouse Odette. Combien il est précieux d'avoir à ses côtés, et je le sais d'expérience, celle qui a foi en vous, celle qui vous soutient et qui est présente dans les moments heureux comme dans les plus difficiles. Cher Charles Chêne, soyez ici le bienvenu.
Merci Jean Prodromides. Nous croyons le connaître, Charles Chêne, parce que nous l'avons vu plusieurs fois. Mais en les lisant à les nôtres, mais grâce à toi, et un peu à cause de toi, nous avons découvert des versants inconnus de son destin. Et c'est ça qui est important dans cette réception sous la coupole. Et je vous en remercie, monsieur. Maintenant, c'est, je crois, au tour de Charles Chêne de monter en ligne, de monter sur le podium et de nous dire ce qu'il a à dire.
Madame, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chancelier, Monsieur le député-maire, Monsieur le président, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, parler de Marius Constant représente pour moi un moment très fort, car je dois vous préciser que dès nos études et pendant des décennies, nos liens furent très importants, ainsi que vous le verrez peu à peu. Marius Constant est né à Bucarest en 1925. Cette origine a déjà, à mon sens, une grande révélation de sa personnalité et de la base originelle de son évolution. Comment, vivant dès la petite enfance en un pays dans lequel l'atavisme du rythme, du dynamisme est si fort, ne pas en être imprégné? Ses études au conservatoire de Bucarest l'ont mené au prix de piano, d'écriture, de composition et furent couronnées par le prix Enescu. Ce prix fut également très marquant puisque pendant ses études, notre apprenti compositeur suivait les répétitions dirigées par le grand maître et en était émerveillé. Comme je fus moi-même émerveillé et très ému lorsque, dans ma jeunesse de violoniste, musicien d'orchestre, je fus amené à jouer la suite pour cordes d'Enesco sous sa direction. Souvenir encore présent aujourd'hui. Quittant son pays, sa culture roumaine, Marius Constant se retrouve après la fin de la guerre à Paris pour une nouvelle quête de visions diverses sur son art musical qui est sa seule voie. Puisqu'il vaut mieux avoir un point fixe, il s'inscrit à premier pour ses études de composition au Conservatoire National. Par la suite, l'École normale de musique fut son second pôle puisqu'il s'inscrit au cours de Jean Fournet qui l'initia à la direction de l'orchestre qui devait avoir une place si importante dans sa carrière. Son premier professeur fut donc au Conservatoire Tony Aubin. Homme dont l'immense culture dépassait le cadre d'un professeur de composition, tant sa vision sur la littérature et les autres arts était ouverte. Je pense qu'ici, une anecdote assez plaisante découlant d'un échange confidentiel mérite d'être contée. Tony Aubin, sachant bien sûr que la culture musicale roumaine était alors très germanisante, dit un jour à Marius Constant, « Vous devriez songer à l'Allemagne. L'avenir y est bien plus ouvert pour un jeune compositeur qu'en France. » Proposition trop tardive, notre franco-roumain était déjà plus que décidé car je me souviens que le jour de cette confidence, il portait l'uniforme français, indispensable pour quelques mois à sa naturalisation. Je pense par ailleurs que la vie, l'animation culturelle de Paris était si forte en lui qu'il en était fasciné et n'aurait pu imaginer une autre implantation pour sa carrière. Parmi ses autres professeurs, vus d'une manière plus libre et indépendante, j'aime citer en premier la grande Nadia Boulanger, femme forte, très directive, rigoureuse, qui permit à une longue génération de compositeurs de s'épanouir avec un point commun que l'on s'est retrouvé malgré les diverses personnalités. Mais notre franco-roumain d'alors n'était pas de nature à se laisser dominer et savait garder en lui tout ce qui lui était propre. Je suis néanmoins convaincu que le côté toujours précis, incisif, sans ajout inutile dans sa musique, trouve son origine dans la fréquentation de la rue Ballu chez Nadia. Arthur Honegger fut aussi un maître dont Marius Constant admirait certains traits de ses œuvres et de sa personnalité. On doit parler au grand public, aimait à dire l'auteur de Jean Nobucher. Je rapproche ceci d'une confidence de notre encore jeune compositeur, me disant un jour, « Il faut savoir ce que l'on veut, il faut être efficace. » Par la suite, Olivier Messiaen fut pour lui, comme pour nous tous, le phare indiscutable et inépuisable dans son rayonnement. Après des études plus véritablement marquées par la forme avec Tony Aubin, l'efficacité d'écriture et de rythme avec Nadia Boulanger, la largeur de vue d'Arthur Honegger, voici l'immense domaine du timbre, des couleurs de toutes sortes, du rêve sonore qui s'ouvrait devant lui grâce à la fréquentation d'Olivier Messiaen. Le choc des cultures roumaines et françaises étant maintenant bien dépassé, après un premier prix de composition, notre compositeur toujours sous le signe de la curiosité artistique, s'orienta vers le club d'essai de la RTF, qui dans les années 50 était le lieu précurseur où étaient testées les prémices de la musique électroacoustique, que l'on qualifiait alors de musique concrète, lequel club d'essai travaillait sous l'égide de Pierre Schaeffer. Ce stage de quelques brèves années fut révélateur pour Marius Constant, puisque c'est dans ce sillage qu'il écrivit Le joueur de flûte, qui lui valut le double succès en 1952 du prix Italia et du grand prix du disque de l'Académie Charles Cros. Cette œuvre était issue d'une légende enfantine qui aboutit à un merveilleux conte musical dont la réalisation instrumentale et radiophonique enthousiasma le jury du prix Italia, prix que Paul Gilson commenta en ces termes: déjà à 27 ans, l'auteur nous montre l'éventail de sa grande originalité et sa merveilleuse possibilité de s'adapter à tous les thèmes. Cette œuvre était mise en évidence des recherches instrumentales et techniques qu'il fit au club d'essai sous la direction de Pierre Schaeffer. C'est au même club d'essai, sous l'égide de Jean Tardieu, qu'allait être confiée plus tard la tutelle du nouveau programme musical à modulation de fréquence, et c'est en 1954 que débute timidement ce programme dont la responsabilité musicale a été remise à Marius Constant. Je vous propose ici de faire un retour en arrière pour préciser un point historico-politique sur les origines de la radio à modulation de fréquence et, par-delà, de France Musique. Tout auditeur écoute aujourd'hui toutes sortes de programmes à modulation de fréquence par habitude, comme si cela remontait au premier pas de la radio. Or, en 1945, et dans les premières années qui ont suivi la fin de la guerre, la France, comme de nombreux pays, n'émettait qu'en ondes moyennes et ondes longues. L'Allemagne, pays vaincu, ne se vit attribuer par les Alliés l'autorisation de créer des programmes de radiodiffusion qu'à la condition que ceux-ci soient uniquement diffusés en modulation de fréquence. Voilà qui limitait l'ampleur de leurs émissions à l'intérieur du territoire, puisque la portée d'un émetteur est, encore de nos jours, de 50 km environ selon la configuration du terrain. Ainsi, un rempart était élevé face à une possible utilisation des moyens radiophoniques à des fins de propagande. Le régime hitlérien avait donné dans ce domaine une cruelle leçon. Cet ensemble, découlant de raisons politiques, fut compris par le président de la RTF de l'époque, qui décida de faire un essai de transmission modulation de fréquence sur le seul territoire parisien au départ. Il fut en cela aidé et fortement incité par Paul Gilson, directeur des programmes, et surtout par Henri Barrault, directeur de la musique, envers qui la diffusion de notre art musical a dans son histoire une immense dette. C'est ce dernier qui décide en 1954 de confier à Marius Constant la direction musicale de ce nouveau programme. Ainsi étaient nés les premiers pas de ce qui devait devenir en quelques années France Musique, grâce au départ à l'efficacité de Marius Constant, qui crut fermement, dès le début, aux possibilités de généralisation de la musique parmi la société. Le premier jour de diffusion fut le 20 mars 1954 et fut marqué par la diffusion du concert dominical du concert Lamoureux dont la soliste était Lily Laskine. Le programme, pendant plus d'un an, fut limité à quelques heures par jour et s'étendit peu à peu, assez rapidement, en durée et en nombre d'auditeurs grâce à de nouveaux émetteurs. C'est ainsi que nos voix allaient se rejoindre et devenir vraiment parallèles. Un jour d'automne 1955, alors que je venais de rentrer de mon long séjour romain à la Villa Médicis, je reçus de Marius Constant la proposition suivante. « Que fais-tu en ce moment? As-tu du temps libre? Veux-tu venir travailler avec moi ?» Je répondis bien sûr positivement. Le monde de la radio était un domaine qui m'intriguait et me fascinait. Mais j'étais loin d'imaginer qu'après cette proposition, mon destin allait être scellé pour 3 décennies et que je deviendrais un véritable homme de radio. Ce destin fut d'abord des productions de programmes et d'émissions. Il fallait en effet couvrir les nouvelles heures d'antenne et, par la suite, Marius Constant commença à prendre des congés pour permettre sa carrière de chef d'orchestre des ballets de Roland Petit, ce qui m'habitua dès lors à prendre les rênes du programme. Dès 1962, la création d'un nouvel ensemble de musique contemporaine intéressait énormément Marius Constant, ce qui aboutit en 1963 au premier pas de l'ensemble Ars Nova qui marqua si fortement cette période. Mais pourquoi un nouvel ensemble dédié à la musique contemporaine? Je crois qu'il convient de rappeler qu'elle était, dans ces années 50-60, le panorama de la présentation au public de la musique du XXe siècle. Celle-ci était absolument dominée par le domaine musical, créé et dirigé, dans tous les sens du terme, par Pierre Boulez, dont le credo était faire connaître les classiques de la musique contemporaine, et cela dans des exécutions à l'abri des reproches d'incompétence et d'amateurisme. Mettre en forme des œuvres des compositeurs réellement contemporains dans des exécutions soigneusement mises au point. Connaissant la précision, l'extrême exigence et le perfectionnisme de Boulez, on ne pouvait qu'être certain de la réussite de cette expérience désirée et souhaitée par les interprètes spécialisés de cette musique. N'oublions pas que l'un des pôles attractifs de cette initiative était la connaissance, l'approfondissement de l'œuvre de Webern. Peu à peu, un public de fidèles se constitua et les auditeurs du domaine musical découvraient une nouvelle génération de compositeurs axés tous, bien évidemment, sur l'esthétique souhaitée et fortement prônée et défendue par Pierre Boulez. Ce dernier étant le seul juge et décideur, l'on ne pouvait qu'aboutir à un dirigisme assez hégémonique, ce qui ne pouvait qu'inciter d'autres musiciens actifs et entreprenants à imaginer la création d'autres ensembles voués au même propos, tout en essayant d'autres ouvertures. Ce fut le cas en premier de l'ensemble instrumental de musique contemporaine de Paris, fondé en 1953 par Constantin Simonovitch. Ce dernier, né à Belgrade, fit ses études de violon, d'écriture et de percussion dans sa ville natale, avant de se fixer à Paris et travailler avec Igor Markevitch. Son charisme, sa passion pour les œuvres nouvelles permirent d'incontestables réussites. Cet ensemble se lia en 1962 avec le groupe de recherche de la RTF pour élargir leur programme aux moyens électroacoustiques. C'est en cette même année que Marius Constant comprit la nécessité de créer un nouvel ensemble ayant pour objectif un grand éclectisme et une ouverture sur nombre d'esthétiques qui, pour des raisons de langage, ne figuraient pas dans les concerts alors offerts au public spécialisé. Cette institution fut d'autant plus forte que sa position à l'intérieur de la RTF lui permit d'envisager la constitution de son nouveau groupe au sein de la radiodiffusion, ce qui élargissait grandement les possibilités de diffusion et de promotion. Mais pour atteindre ce but rêvé, il fallut à notre promoteur une grande conviction, une grande force de persuasion et beaucoup de diplomatie pour convaincre la direction administrative de former cette nouvelle phalange. Il fut cela pour beaucoup aidé par Henri Barrault, alors directeur de la chaîne nationale, qui reconnut plus tard: il est bien exact que je suis à l'origine de l'ensemble de Marius Constant. L'ensemble Ars Nova naissait et fut confirmé par une note administrative signalant l'existence d'un groupe sous l'égide de la RTF composé des meilleurs instrumentistes de Paris pour des formations peu usitées de 2 à 17 musiciens. Ce fut un premier grand succès et l'ouverture vers de grands horizons. En tout premier, de nombreux enregistrements furent réalisés par le service des échanges internationaux, alors très actif, dont la mission était de faire connaître aux divers pays la musique française de notre temps. Par la suite, la notoriété étant née, les concerts publics furent organisés. Dans sa première note argumentaire, Marius Constant proposa une liste de 123 œuvres pouvant être montées par Ars Nova. Cette liste fut bien vite dépassée au fil des ans et de l'arrivée de nouveaux compositeurs écrivant pour l'ensemble. Tout ceci fut construit dans un climat de grande amitié et de très grand professionnalisme. Les interprètes se donnaient avec passion à leur travail de répétition. Signalons entre autres le trombone Camille Verdier, fidélissime, qui sut être la cheville ouvrière de l'ensemble, lequel ensemble vit ses activités se déployer bien au-delà de la RTF. Divers lieux dans Paris les accueillaient, en particulier l'espace Cardin, qui attira régulièrement les concerts de l'ensemble avant des tournées à l'étranger et la constitution du quintet de cuivre Ars Nova, qui fit tournée et enregistrement sous la houlette amicale et administrative de Camille Verdier. Pendant cette grande activité dédiée à la diffusion de la musique du XXe siècle, que devient la position de Marius Constant en tant que responsable du programme musical qui, en 1963, devint France Musique? Je suis obligé ici de situer à nouveau ma présence et l'évolution de mon rôle. Lorsque Ars Nova fut officialisé, Marius Constant vint me retrouver au bureau pour m'annoncer joyeusement la nouvelle et me dire: pour la direction générale, France Musique a 2 têtes. Cela signifie que pendant les 3 années qui suivirent, nous nous sommes partagés les responsabilités, l'organisation de France Musique, journellement, dans une atmosphère très amicale et dans un même bureau. Ceci sans problème esthétique, car nous avions les mêmes orientations. Évidemment, son action à la tête d'Ars Nova ne lui permettait plus une présence régulière, mais elle me permettait, quant à moi, de suivre aussi la vie d'un nouvel ensemble contemporain. Là, les premiers concerts, une orientation éclectique fut évidente, puisqu'à côté des noms des aînés figuraient Boulez, Ami, Nig et bien d'autres. C'est à ce moment-là que Marius Constant se passionna pour l'aléatoire et l'improvisation collective. Il fournissait aux musiciens une sorte de canevas, une planche, qui réunissait des indications de départ que ces interprètes de grande qualité utilisaient librement. C'était une joie musicale étonnante que de voir l'atmosphère ludique de ces répétitions et le résultat obtenu grâce, bien certainement, au rôle de guide que gardait toujours notre chef afin d'aboutir à un aléatoire contrôlé. Il utilisa très souvent par la suite dans ses œuvres définitives ce procédé d'écriture. Nous le verrons lorsque nous nous pencherons sur son catalogue. Je considère pour ma part l'existence d'Ars Nova comme un très grand moment de la présence de la musique de notre temps en France et au-delà des frontières par des nombreuses tournées effectuées. Au bout des 3 années dont je parlais, l'ensemble se détacha complètement de la direction de France Musique. Cette grande activité n'éloigna jamais Marius Constant de sa vie de compositeur et de chef d'orchestre, favorisée par sa très grande lucidité et rapidité de jugement. Si nous considérons les dates de sa riche carrière, nous nous apercevons que son activité dans le domaine de la chorégraphie était déjà très développée par sa collaboration suivie avec Roland Petit. Je vous propose maintenant un retour aux origines pour mieux comprendre cette passion face à la danse. Dans sa vie de jeune pianiste, après ses prix au Conservatoire de Bucarest, notre apprenti compositeur fut, par goût et raison pécuniaire, accompagnateur de cours de danse, ce qui marqua fortement ses 18 à 20 ans. Si l'on ajoute à cela que, peu après, il épousa une jeune danseuse, je suis certain que nous avons là le décor d'un ordre psycho-artistique pour suivre sa carrière si liée au monde de la danse. Son premier succès d'importance fut sans aucun doute Cyrano de Bergerac, succès très remarqué dans le monde artistique, qui fut le fruit d'une collaboration très étroite avec Roland Petit. Je crois intéressant de parler, de laisser parler Marius Constant de sa conception de compositeur de ballet. Une fois choisi le sujet, je ne me retire pas dans ma tour d'ivoire, mais il est important d'avoir toujours présent à l'esprit sa propre vision de l'œuvre. Il m'arrive parfois d'indiquer sur une partition un éclairage, une direction, quitte ensuite à en discuter avec chorégraphe ou décorateur. Cela correspond à une démarche musicale. Je suis par ailleurs prêt à modifier certains détails si ces changements ne détruisent pas une intention précise ou une logique de la musique. Nous sommes en présence d'un vrai compositeur pour qui, dans le domaine du théâtre, ballet aussi bien qu'opéra, la musique primordiale doit toujours garder la première place. Voici une réflexion à méditer à notre époque où si souvent le responsable musical est proche de la capitulation face au metteur en scène. Revenons rapidement à Cyrano de Bergerac, que Marius Constant, par la suite, considéra comme une expérience amusante. Avant d'entreprendre en 1966 l'écriture de l'Éloge de la folie, œuvre plus profondément musicale que son auteur classé parmi ses meilleures partitions. Ce ballet, toujours en collaboration avec Roland Petit, fut écrit sur un argument de Jean Cot, qui avoue à lui-même que seul le titre évoquait Erasme. Il s'agissait avant tout de mettre en évidence une sorte de paradis des folies de notre temps. Sourire et grincement, objectivité et subjectivité donnent à ce grand moment de chorégraphie et de musique une ironie souvent amère. Nous ne pouvons étudier en détail la longue liste des réussites de notre compositeur, mais je dois dire mon admiration devant l'osmose à laquelle a abouti la longue collaboration de deux artistes de si haut niveau, l'équipe Marius Constant, Roland Petit. Quelques titres toutefois, La peur, Le paradis à Covent Garden, 1967, Nana à l'Opéra de Paris, 1976, etc., etc. Ce même Opéra de Paris, où, par la volonté de Rolf Liebermann, notre si fidèle compositeur entre comme directeur musical de la danse de 1973 à 1978. Il contribua à ce poste à rehausser le niveau orchestral lié au ballet en engageant des chefs attirés par cette discipline. Le chef de ballet étant un peu considéré alors comme parent pauvre face au lyrique. Également, le respect de la partition musicale par les danseurs fut un de ses soucis de priorité. Il envisagea même de créer des cours d'écoute musicale. L'action perpétuelle étant innée en Marius Constant, en 1979, quittant l'Opéra de Paris, il devint professeur d'orchestration au Conservatoire national de Paris. Comment imaginer meilleure chance pour un élève compositeur? Mais que pensait au fond de lui-même Marius Constant de son propre rôle de compositeur? Dans les années 80, après 10 années d'expérience d'enseignement au conservatoire, voici sa réponse. Après tant d'actions diverses, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre à venir. Passionné par toute forme d'art, j'ai toujours eu besoin d'imaginer pour faire de la musique. Et je déplore qu'aujourd'hui, les compositeurs ne soient pas plus curieux et vivent en vase clos. Propos recueillis par Anne Rodet. Réaction intéressante de la part d'un animateur qui fréquenta et aida tant de collègues à l'époque d'Ars Nova. Son propre rôle de compositeur nous laisse plein d'admiration pour les œuvres majeures qui jalonnèrent sa carrière. En 1958, ce fut la magistrale création des 24 préludes au Théâtre des Champs-Élysées par Leonard Bernstein, soirée inoubliable où se conjuguèrent virtuosité de l'orchestration, richesse de l'imagination et diversité des 24 pièces courtes, toutes aussi prenantes. Claude Rostand, dans sa critique immédiate, salua un ouvrage qui réunit des équilibres vertigineux, d'une grande audace et d'une maîtrise d'écriture remarquable. L'interprétation de Leonard Bernstein fut, selon l'auteur lui-même, extraordinaire, un volcan en éruption, des matières précieuses jaillissant de partout. Peu d'années après, 1961, autre œuvre majeure, Terre-Mère. Si le secret des œuvres d'art durables est le mystère, Turner est certainement un des plus grands peintres de tous les temps, nous dit le compositeur. Le pouvoir visionnaire de Turner, qui l'a si fortement impressionné, provoqua des résonances sonores qui ne pouvaient que sensibiliser l'auditeur. Cette œuvre, écrite pour des solistes, consiste à faire éclater les familles instrumentales afin d'ajouter le mystère sonore à celui-ci extraordinaire de la palette du peintre. Ce triptyque intéresse, charme et retient. Ce fut un grand succès, note dans son article Marcel Schneider. Cet éclatement en 40 parties solistes était animé d'un mouvement intérieur intense, comme l'est la vision si personnelle du peintre. En prélude au chant de Maldoror, œuvre à la limite de l'aléatoire et de l'improvisation collective, je ne résiste pas à l'idée de vous conter une anecdote très parlante concernant Turner, anecdote que Marius Constant ne dut pas connaître. Turner appela un matin des enfants intéressés par le dessin en tant que collaborateur. Il délaya pour eux trois pains d'aquarelle, rouge, bleu, jaune, dans trois soucoupes, leur dit de tremper leurs doigts dans la couleur et de jouer ensemble avec leurs mains sur le papier. L'ordre fut suivi, évidemment, avec empressement. Turner observa avec attention ce travail, puis cria soudain « Stop !» Reprenant alors le dessin, il y ajouta un paysage suggéré par ce coloriage et le travail fut terminé. N'est-ce pas un bon prémisse au moment de parler aléatoire? Cet aléatoire si présent pendant une longue période dans les présentations aléatoires esthétiques de Marcus Constant atteint son apogée dans la réalisation des chants de Maldoror, apogée dans la forme et dans le résultat sur l'auditoire. Un récitant, suivant le texte de Molotriamon, un danseur, interprétant par ses gestes les inflexions du texte, et un ensemble instrumental, assurant la vie, l'illustration musicale de l'ensemble. De très nombreuses œuvres pour des formations toujours variées émaillent le catalogue de notre compositeur, prouvant sa curiosité toujours en éveil. Très, pour ensemble de cordes, Vince, les 14 stations, grande exploration de la percussion, piano personnage, la Nana Symphonie, qui après son passage à l'Opéra de Paris poursuivit sa vie en concert, le monde lyrique, aussi fut à diverses époques très présent dans la production globale de Marius Constant. Le souper, 1968, mis en scène par Raymond Jérôme au Festival de Besançon. La serrure, 1969, deux ouvrages écrits sur des textes de Jean Tardieu. Le jeu de Sainte-Agnès, 1974, le grand succès de la tragédie de Carmen, 1981. Cette nouvelle version, vision, de l'opéra de Bizet bouleversa bien des idées reçues. Allant à l'essentiel du tragique de l'ouvrage et ouvrant des portes sur le côté incisif de l'instrumentation, où, encore une fois, notre orchestrateur né fit merveille. Teresa, sur un texte de Pierre Bourjade, vu à l'Opéra de Rouen, dont la belle réalisation scénique et musicale ne put faire oublier la partie scandaleusement provocatrice du livret. Son dernier ouvrage, Verlaine Rimbaud, retour à une vision plus traditionnelle du langage, bénéficia d'une intéressante présentation à l'espace Cardin. Ce prestigieux parcours serait incomplet si nous ne parlions du grand talent du chef d'orchestre qui brilla devant les plus prestigieuses phalanges. Je me permets un retour à nos sources communes. J'étais en effet présent en ses premiers pas au conservatoire où il dirigea l'orchestre des élèves pour les concours. Sa juvénile autorité, toujours courtoise, était dès ses débuts très appréciée de tous ses camarades. Depuis, les plus grandes scènes ont vu applaudir ses interprétations. Les opéras de Paris, de Berlin, de Hambourg, le Bolchoï de Moscou, le Met de New York, le Covent Garden de Londres, mais aussi, dans le domaine symphonique, les principaux orchestres des États-Unis, du Canada ou encore du Japon. Ayant suivi les divers stades de la prestigieuse carrière de Marius Constant, j'aimerais maintenant essayer de vous proposer un portrait plus intime, plus humain. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de vous offrir une vision objective globale, mais plutôt de vous dire comment j'ai vu et connu notre compositeur. Toujours sous une apparence ouverte et amicale, que pour ma part j'ai toujours connue régulière de caractère, il dissimulait une volonté très forte. Celle-ci masquait une ambition profonde au bon sens du terme. Une rapidité d'esprit, une sûreté de jugement, souvent tempérée par un atavisme slave qui lui évitait toute précipitation, et se situait dans une généreuse liberté et indépendance totale. L'ouverture aux autres était, je pense, viscérale. Il avait besoin de contact et était attentif aux personnalités qui l'entouraient. Sûr de lui-même, par une force qui lui était innée, je crois qu'il ne dut que rarement connaître le doute quant à sa production. Nous pouvons dire qu'il était un cynique, c'est-à-dire que sa pulsion profonde était toujours le guide. Paul Valéry conseille « Écris à moi naturel ». D'aucuns écrivent à moi dièse. Je suis persuadé que chez lui, rien ne fut gratuit, mais profondément ressenti. Le tout exprimé derrière un visage malicieux et secrètement énigmatique. La curiosité, la qualité de base de tout créateur, était constamment présente. Je pus constater cette toujours vive curiosité lorsqu'en cette dernière décennie avant l'an 2000, nous passions régulièrement une semaine de juin à Monaco autour du prix du jury de la Fondation Prince Pierre. De nombreux moments de détente dans un cadre agréable ont permis bien des échanges amicaux, obscurcis vers les dernières années par une amertume, conséquence de sa maladie, qu'il ne pouvait plus maîtriser sur le plan intellectuel. Le plus grand souvenir de cette période fut pour moi mai 2000, où Marius Constant voulut assister aux répétitions et premières de mon opéra Cecilia, créé à Monte-Carlo. Ce fut notre dernière rencontre qui conclut dans la clarté une si ancienne fréquentation de profonde confiance. Si l'acte créatif constitue l'instant rare, soyons sûrs que Marius Constant connut fortement cette plénitude de grand créateur. Mais pourquoi est-on créateur? L'art n'est pas rêve, écrit André Malraux, mais possession des rêves. c'est-à-dire aller au fond de soi, extérioriser la part inexprimable de nos pulsions. Se réaliser, c'est aussi établir une communication, un constat impossible à atteindre par d'autres voies. Livrer la partie cachée de soi-même, l'être mystérieux que nous nous efforçons de préserver, à l'autre qui nous paraît inaccessible. Quoi de plus apaisant que l'impression ressentie d'avoir trouvé un écho par notre environnement artistique. Proust disait de ses lecteurs qu'ils seraient les propres lecteurs d'eux-mêmes, son livre n'étant qu'un verre grossissant. Bien entendu, le créateur travaillant dans l'isolement ne pense qu'à sa propre expression presque narcissique. Mais malgré tout, ce dialogue avec soi-même laisse parler l'inavoué. Il s'agit en quelque sorte de déposer sa personnalité première pour en chercher l'essence. Plus tard, s'étant exprimé, c'est une certaine jouissance que se reconnaître au miroir de ses troubles, de ses certitudes, de ses joies. Mais l'acte créatif, loin de toute vie extérieure, constitue un inexprimable moment de vie intense, même s'il est souvent imprégné de difficultés passagères. En somme, préférer au monde que l'on voit celui que l'on porte au plus secret de sa personne. Qui doit dominer l'appétit du créateur? L'intelligence ou l'instinct? Écoutons Elifor. Rien ne peut remplacer la forme pure de l'instinct, mais dès qu'elle en sent les racines, l'intelligence est la fleur de l'instinct. Elle choisit, redresse, élimine. Comment est amenée à se manifester l'intelligence du Créateur? Tout d'abord, par la prise en charge des désirs confus, la mise en forme de la pensée, la curiosité, l'éveil devant les propositions de l'instinct, suivi par l'analyse, parfois inconsciente, des éléments bruts et de leur utilisation par le discernement. Mais l'intelligence est-elle vertu première ou essentielle? Existe-t-il des créateurs moins favorisés sur ce plan? Séparons intelligence et somme des connaissances. Il paraît évident que bien des créateurs se sont peu distingués sur ce plan. Nous assistons dans ce cas à un repliement sur une personnalité certaine, mais dont l'uniformité se fait tôt ou tard sentir. Une source dont est frappant le manque de renouvellement. L'instinct est donc la base de toute création, mais l'intelligence reste essentielle. Son amoindrissement ôterait acuité et projection au-delà du moment créatif aux œuvres ainsi produites. Y a-t-il interaction entre les arts? Selon Wagner, là où l'un de ces arts atteignait à des limites infranchissables, commençait aussitôt la sphère d'action de l'autre. Musicien, prenons un exemple. Lors d'une exposition, comment réagissons-nous? Comment regardons-nous? Un certain nombre d'œuvres nous sollicitent. Après un regard d'ensemble, interrogateur, c'est subitement la fascination. Que s'est-il passé? Qui a parlé en nous en premier lieu l'affinité, le miroir de nos goûts, l'intérêt intellectuel, le plus souvent l'instinct règne en maître. C'est l'instant rare, le moment de la découverte personnelle, intime, quasi volupté du regard suivant une ligne, une couleur, sentiment de dépendance, arrêt du temps, désir d'engranger, intervention déjà de la mémoire qui enregistre et grave sur le ruban de nos sensations. Ainsi, dans ce cas d'interaction entre les arts, le pas est fait, accompli. Nous pouvons revoir, nous avons communiqué, participé. Mais la participation à toutes les joies que peut provoquer notre univers artistique n'est-elle pas la récompense de toute une vie? La fleur qui arrive après les moments de doute et de réflexion. Comment conclure ces moments passés sur le parcours d'une curieuse et heureuse curiosité artistique, mieux qu'en vous remerciant à nouveau, mes chers collègues, de me permettre d'ouvrir parmi vous une nouvelle page de ce livre d'un esprit toujours curieux.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance solennelle de réception de l'académicien Charles Chêne de l'Académie des Beaux-Arts qui s'est déroulée sous la coupole le 31 janvier 2007.